Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelqu'un dont vous avez certainement déjà entendu parler dans la parole. Voilà. C'est le monsieur qui est ici. Alors, qui est ce monsieur, à votre avis? On voit que c'est un Romain. Il a le costume, enfin, il a l'habit du militaire. Effectivement, c'est Corneille, le centenier Corneille. Et ce matin, je voudrais vous parler du secret de Corneille. Corneille avait un secret. Un secret que on va vous dévoiler, bien sûr, on va pas dans quelques instants. Alors, qui était cet homme? C'était un centenier romain qui habitait à Césarée. Et puis un jour, en plein après-midi, il a une vision. La vision, je vous rappelle son histoire un petit peu, enfin, ce qui est essentiel dans son histoire, lui apparaît un ange qui rentre chez lui et qui lui dit à peu près ce qui est ici. Mais plus exactement, je lis dans le texte, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Et il lui dit l'ange lui dit que Dieu veut le bénir et il lui dit d'envoyer à Jopé des hommes. Alors Jopé, c'est un petit peu au-dessus de Césarée, c'est à peu près à 40 km, donc il faut un petit peu se représenter la distance. Hein, il va obéir et il va envoyer à Jopé un soldat et puis deux de ses serviteurs à 40 km. Pour pouvoir aller chercher quelqu'un. Aller chercher qui? Aller chercher l'apôtre Pierre. Il lui a besoin de l'apôtre Pierre. Et donc ce soldat et puis ses deux serviteurs vont parcourir les 40 km pour aller chercher l'apôtre Pierre, Simon Pierre, qui était logé chez un autre Simon qui travaillait le cuir. Et le lendemain, ils approchent de la ville. Alors ça, à cette époque-là, je ne sais pas si vous imaginez, mais ils réagissent vite, hein. 40 km. Et le lendemain, ils sont chez l'apôtre Pierre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas allés en voiture, ni en vélo, ni en mobylette. Je peux vous assurer, ils sont allés à pied, très probablement, pas en cheval. Les gens n'avaient pas tous un cheval à l'époque, loin de là. Et donc, 40 km, ils arrivent le lendemain matin chez l'apôtre Pierre. Au même moment, ou juste avant, l'apôtre Pierre, je vais vite, hein, parce que vous connaissez, je crois, l'histoire, l'apôtre Pierre, juste avant qu'il n'arrive, a lui-même une vision. Quelle vision? Une nappe qui descend du ciel avec des reptiles, des animaux à quatre pattes, des oiseaux, en particulier des animaux qui étaient impurs pour les Juifs. Et puis une voix qui lui dit trois fois, tue et mange. Et à chaque fois, Pierre dit non, parce que c'est un homme qui est religieux. Sa religion juive donc lui interdisait de manger ces animaux. Et il dit non. Et trois fois, la voix dit tue et mange. Et Pierre se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment-là, juste à ce moment-là, en fait, qui est-ce qui orchestre l'ensemble, vous avez compris, le Saint-Esprit orchestre parfaitement tout ça, arrivent chez lui les trois hommes, donc le soldat et puis les deux serviteurs de Corneille, qui lui disent, ben, il faut que tu viennes avec nous. Et là, Pierre se dit, mais bon, je viens de vivre quelque chose de fort quand même avec cette nappe, cette grande vision, cette vision céleste, hein, une nappe qui descend du ciel avec tous ces animaux où tu les manges. Il est un petit peu troublé, il dit, je vais y aller avec eux, il va se passer quelque chose. Et là, effectivement, le lendemain, Pierre donc, va prendre quelques amis, quelques frères en fait, et il va rentrer avec le soldat, avec les deux serviteurs, ils vont se rendre chez le centenier Corneille. Et là, oui, merci, ils arrivent chez le centenier Corneille. Là, on est à l'histoire de Pierre, hein, qui se demande ce que ça signifie. Donc, ils vont y aller. Et ça, c'est le surlendemain. Ça veut dire que les 40 km, si j'ai bien compris, hein, en une journée, puis les 40 km à pied, le jour suivant. Ils ont fait 80 km en 2 jours. D'après le texte, en tout cas, c'est ce que vous regarderez. Mais moi, c'est ce que je comprends. Ils n'avaient pas besoin de faire de sport à l'époque pour perdre quelques kilos. Donc, le lendemain, ils arrivent chez Pierre. Enfin, c'est Pierre, pardon, qui arrive chez Corneille. Pierre va prêcher, et avant qu'il ait terminé de prêcher, que se passe-t-il? Le Saint-Esprit va descendre sur toute l'assemblée qui est là, c'est-à-dire, il y avait toute la famille de Corneille, il y avait ses amis, et apparemment, il avait beaucoup d'amis, parce qu'il est écrit qu'il y avait beaucoup de monde. Ils vont parler en langue, ils vont prophétiser, et Pierre va reconnaître que là, ils vivent quelque chose, c'est un baptême dans le Saint-Esprit qui va être vécu ici. Par Corneille. La conséquence, elle est extrêmement importante. Parce que ici, on voit pour la première fois des païens, j'entends des non-juifs, qui pour la première fois vont recevoir le Saint-Esprit, qui pour la première fois vont accepter Jésus dans leur cœur, qui pour la première fois vont entrer dans l'église. Tout d'un coup, dans cette petite maison, chez Corneille, l'église va s'agrandir d'une façon assez phénoménale. C'est un petit peu comme l'histoire du Big Bang. À un moment donné, il y a quelque chose qui va enfler comme ça, de façon extrêmement importante, d'un seul coup, en une fraction de seconde. Là, c'est l'église qui va exploser. L'église qui était réduite au monde de la synagogue, au monde juif, tout d'un coup va exploser, va s'agrandir chez les païens. Et nous sommes le fruit de ce que Corneille et ses amis vont vivre ici. C'est parce qu'ils ont vécu cela que nous pouvons aujourd'hui également faire partie de l'Église. Le mur de séparation a été abattu et l'Église n'est pas réservée aux Juifs, mais aux Juifs messianiques, mais c'est aussi pour des gens comme vous et moi qui sommes bénis par le Seigneur aujourd'hui. Autrement dit, ce que Corneille a fait, c'est extrêmement important. Il a eu dans la Bible un rôle extrêmement central, extrêmement important. L'événement qui se passe chez lui ce jour-là, c'est quelque chose de fondamental pour la suite de l'histoire de l'Église. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Corneille? Pourquoi Dieu a-t-il choisi Corneille? Alors, d'Ivoire, on trouve ça dans les Actes, hein, c'est l'histoire, et dans Actes 10. Wow, c'est super, il y en a au moins deux coins de Bible. Il était pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison. Puis tu peux regarder, il faisait beaucoup d'aumônes et il priait Dieu continuellement. Donc c'était une crainte de Dieu qui était concrète, hein, enfin, qui avait des applications, qui avait des conséquences concrètes. Il faisait beaucoup d'aumônes et priait Dieu continuellement. Et puis au verset 22, puisque tu l'as.
Corneille, ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage.
Merci. Homme juste et craignant Dieu, de qui tous les Juifs rendaient un bon témoignage. Donc on voit que c'était un homme, et c'est ça le secret en fait de Corneille, c'est que c'est un homme qui avait la crainte de Dieu. Et je crois que c'est pour ça qu'il a été choisi ici par Dieu pour cette mission si importante que je viens de résumer en quelques mots. Alors les craignants Dieu, vous savez, hein, dans le Nouveau Testament, qui étaient les craignants Dieu? Ils étaient appelés comme ça par les Juifs. C'était un terme, les craignants Dieu. C'était des non-Juifs, comme le centenier Corneille, ça pouvait être des Romains, des Grecs, mais des non-Juifs, des païens, qui fréquentaient la synagogue, donc ils avaient une certaine conversion au judaïsme, mais sans se plier à toutes les coutumes juives. Ils avaient un pied dedans, puis un pied dehors. Les juifs n'étaient pas d'accord pour qu'ils mettent les deux pieds dedans, d'ailleurs, à l'époque. Hein. Ce n'était pas simplement parce qu'ils ne voulaient pas. C'est des gens qui connaissaient le Dieu des juifs, qui avaient fait une certaine démarche par rapport à lui, mais qui n'essayaient pas d'obéir à toute la loi, ce qui n'est pas des gens qui participaient à toutes les réunions, à toutes les aux juives, etc. Maintenant, donc, qu'on a vu quel était le secret de Corneille, que c'était la crainte de Dieu, intéressons-nous à savoir qu'est-ce que la crainte de Dieu? Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Alors, on peut parler de la peur, on peut parler de la crainte de Dieu. Et il faut qu'on voit maintenant que c'était deux choses qui étaient complètement différentes. Qu'est-ce que c'est que la peur, de façon très générale? La trouille. Merci. En langage très courant. Mais déjà, la peur, si j'ai peur de quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut définir la peur?
C'est déjà une émotion.
C'est une émotion, moi je dirais, c'est l'angoisse, hein, une émotion qui s'appelle l'angoisse. Devant quoi?
Devant quelque chose qui nous fait peur.
Qui nous fait peur devant un danger. Alors le danger, ça peut être un danger vital, ça peut être un danger où quelqu'un d'autre risque quelque chose, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est l'angoisse de l'homme devant un danger. Et dans la Bible, pardon,
quelque chose d'inconnu.
On peut avoir peur devant l'inconnu, effectivement. Ça peut être un danger réel ou un danger imaginaire. Parfois, on se fait ses propres peurs de choses qui n'existent pas vraiment. Hein. Ça, c'est la peur. On connaît. On l'a définie. On va pas en reparler plus que ça. Y a-t-il une différence avec la crainte? Ou réponse oui. Dans la Bible, mais quand il est parlé de la crainte,
pour moi c'est le respect.
Tu anticipes, c'est la crainte de Dieu. C'est la différence, c'est que la crainte, il y a la peur et il y a la crainte. Alors la peur et la crainte, c'est pareil, sauf quand on parle de la crainte de Dieu. quand on parle de la crainte de Dieu dans la Bible, à ce moment-là, c'est une signification qui est différente. Vas-y. Alors, tu avais déjà une... Tu étais bien préparé à la foi chrétienne.
Oui, dans un sens, mais sans en être conscient. Et mon père n'avait pas besoin. C'était un homme qui était toujours calme, mais il n'avait qu'à regarder et on savait ce qu'il fallait. C'était bien ou pas bien.
On craignait.
Ouais. On n'en avait pas peur.
Ouais, alors, il y a des fois, il y a des mélanges, mais effectivement, tu as... Bah, tu as la chance d'avoir eu un père qui t'a communiqué une crainte qui ressemblait à la crainte qu'on doit avoir pour Dieu. Oui.
Moi, j'ai eu peur de personne, mais je ne craignais pas. C'est-à-dire que pour moi, il y a aussi dans la peur un mélange de mépris. Je n'avais pas une crainte respectueuse de ces gens-là.
Ouais.
J'en avais peur parce qu'elles exerçaient une autorité sur moi qui n'était pas. Mais j'en avais peur, mais je ne les aimais pas.
Tu es de quelqu'un dont on a peur, on ne peut pas l'aimer en même temps.
Ouais.
Si c'est la peur,
ouais,
au lieu de la crainte dont Alain vient de parler. Mais tu as dit que, oui c'est ça,
ouais.
Quelqu'un dont tu as peur, tu n'as pas le même sentiment par rapport à lui que si tu en avais la crainte. Si tu en as la peur, il y a du mépris, alors que si tu en as, c'est la crainte, à ce moment-là, il peut y avoir du respect. Celui qu'on craint, on peut le respecter. Celui dont on a peur, on ne respecte pas. Merci de cette intervention. Pour illustrer cela, relisez Exode chapitre 20 et verset 20 au Sinaï. Dieu apparaît dans toute sa puissance. Il y a du tonnerre, je crois qu'il y a des éclairs aussi. Il y a des tremblements de terre. Et puis on voit que le peuple... C'est ce qui est écrit, en tout cas dans l'Ancien Testament, le peuple a peur. Et puis Moïse va avoir une intervention, une parole, vous allez voir, qui est un petit peu bizarre. Moïse va leur dire, va dire au peuple, « N'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi vers vous, c'est pour que vous le craigniez. » C'est bizarre, hein? Il leur dit, « N'ayez pas peur, Dieu veut que vous le craigniez. » Ça veut donc, sous-entendons bien que la peur et la crainte de Dieu, c'est pas... La même chose, on peut ne plus avoir peur, n'ayez pas peur, mais craignez-le. On peut ne pas avoir peur, ne plus avoir peur et on peut le craindre. Vous trouvez ça également dans l'histoire de Jonas, vous savez, les marins qui l'ont jeté à l'eau pour que Dieu ne fasse pas couler le navire. Il est dit qu'ils eurent peur, ces gens. Ils ont eu très peur, les marins, quand la tempête est arrivée. Puis quand ils ont jeté Jonas à l'eau et puis que la tempête s'est calmée, il est dit qu'à ce moment-là, ils furent saisis d'une grande crainte de Dieu. On voit très bien que c'est un sentiment qui est complètement différent. Au départ, ils avaient peur du danger. Puis après, ils craignent devant Dieu parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un Dieu qu'occupe de l'espace. Il y a un Dieu qui est grand. Même chose quand les disciples sont dans la barque avec Jésus. Ils ont peur quand il y a la tempête. Mais quand Jésus parle au vent et à la mer, puis que tout se calme, il est dit qu'ils ont une grande, grande crainte de Dieu. La peur, ça n'est pas la crainte. La peur, c'est face à un danger, alors que la crainte, c'est, on va essayer de le définir si vous voulez bien, de définir ce qu'est la crainte par rapport à la peur. Alors, essayons ensemble, si vous voulez, avant que je donne la solution. Comment on pourrait définir la crainte ?
La crainte, elle s'accompagne du respect, de l'amour.
Alors, du respect, l'amour.
De l'amour, d'une sécurité.
Oui, mais elle naît de quoi ? Face à Dieu, je crains Dieu, ça veut dire que je le respecte, etc. Mais pourquoi est-ce que j'ai cette... Pardon ? Parce que je me sens faible, oui. Effectivement, ça, c'est un élément. Hein. D'autres éléments, si vous voulez les dire en quelques mots comme ça. Oui. Ah, il est tout puissant sur ma vie. Je me rends compte que moi, je suis petit et puis que Dieu, lui, est très grand. Et il y a de la confiance et du respect. Il y a de la confiance, il y a du respect. Il y a le sentiment que je suis tout petit et il y a le sentiment que Dieu est très grand. Alors je vous propose maintenant une définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais vous allez voir qu'elle rejoint à peu près la vôtre.
La crainte de Dieu, c'est le sentiment d'immense respect, chose qui peut être très très grand, de la créature faible et misérable que nous sommes, devant la puissance, mais aussi la sainteté du Créateur.
Voilà comment on peut définir, je crois, la crainte. Vous voyez qu'on est loin de la peur. Hein. C'est pas la même chose que ce sentiment qu'on a devant le danger. Il y a quelqu'un qui a traduit ça d'une belle façon, c'est Chouraki. Vous savez, Chouraki, c'est ce juif qui a traduit, cet exégète extrêmement compétent, qui a traduit toute la Bible par rapport au texte hébreu. Et lui, comment traduit-il le terme crainte? Je vais vous le dire, et je crois que ça va nous parler. Il traduit le terme crainte ou crainte, craindre, par frémir et frémissement. Frémir, frémissement. Je crains Dieu, ça, il le traduit par exemple dans le cas de Corneille, j'ai regardé. Dans le cas de Corneille, il dit Corneille, au lieu de dire Corneille est pieux et craint Dieu, il dit Corneille est fervent, il frémit d'Elohim. Elohim Dieu, hein, d'accord. Il frémit de Dieu. Plutôt que de dire il craint Dieu, il frémit de Dieu. Il se rend compte que Dieu est tellement grand qu'il en est tout tremblant finalement. Et Chouraki insiste sur la conséquence plutôt que son origine. Il craint Dieu, donc il tremble. Et lui, il insiste sur le deuxième aspect, il tremble devant Dieu. Pas de peur, mais d'émotion. Hein. Il tremble d'émotion. Le problème, je crois, aujourd'hui, c'est que dans notre société, on ne laisse plus de place à ce qui est transcendant. L'homme, dans notre société, ne laisse plus place à ce qui est transcendant, à ce qui le dépasse. Il ne veut pas être dépassé, il veut maîtriser, en particulier aujourd'hui, avec la technologie. Alors, vous savez que moi, j'ai du mal avec la technologie. Mais je trouve que c'est bien par ailleurs, c'est un outil qui est formidable. Mais en même temps, ça nous cache un petit peu la grandeur, ça nous cache qu'on a l'impression qu'on maîtrise tout. Parce qu'on obtient l'autre un petit peu rapidement sur un ordinateur, puis qu'on a accès à plein d'informations en même temps. On a l'impression de temps en temps qu'on contrôle les choses et qu'on les domine. Et ça nous empêche d'avoir une vision de quelque chose qui nous dépasserait, quelque chose qui nous dépasserait qui s'appelle Dieu. Et il me semble aussi qu'on confond parfois la morale et puis la vision de Dieu. Je crois que ce qui est premier, c'est le fait qu'on ait une petite vision de Dieu. Et Sou tout à l'heure parlait de médiocrité. Seigneur, empêche-nous d'être médiocre. Et toi tu as dit il est bon qu'on ait le cœur qui soit dilaté. Le problème aujourd'hui, c'est pas, il y a des problèmes moraux, il y a des problèmes éthiques, il y a des problèmes moraux. Soit quand on parle à des gens qui ne sont pas chrétiens, il ne faut pas non plus cacher que mentir, l'avortement, ou les 10 commandements sont toujours là, et puis toutes les lois éthiques qu'on pourrait en déduire sont là, elles sont bonnes. Il y a des problèmes moraux. Mais le problème premier, c'est que l'homme ne veut pas laisser à Dieu toute la place, une grande place dans son cœur, qui lui donne une place qui est réduite, voire qui est même étouffée. Et à partir de là, les problèmes moraux, les problèmes éthiques, c'est normal que quelqu'un qui a un cœur qui est tout rétréci, qui est tout petit, n'accorde pas d'importance aux problèmes éthiques, aux problèmes moraux, ne voit pas les choses comme la Bible dit qu'elles sont, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il ne faut pas inverser les choses. Souvent, quand on parle à des gens qui ne sont pas chrétiens, on veut commencer par on veut moraliser. Je crois qu'il faut dire les choses quand même, hein, peut-être qu'il faudrait moins moraliser au départ, puis qu'il faudrait déjà donner une vision de Dieu qui est un Dieu grand pour que les gens craignent Dieu. Parce que les gens qui craignent Dieu après, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui est tremblant devant Dieu, en général, il commence à écouter un petit peu quand on lui parle de morale, d'éthique, des choses bonnes, des choses mauvaises. Le cœur est préparé. Mais tant que le cœur est tout petit, que le cœur est réduit, que la personne ne craint pas Dieu, vous pouvez parler d'éthique et de morale, je ne crois pas qu'on va se moquer de vous. Hein, mais il me semble. Hein. Alors, pardon.
Quand tu as reçu de la transcendance,
oui.
Tout ce que tu as dit qui passe à nos débats, parce qu'on ne maîtrise plus, mais c'est aussi simplement refus d'autorité. Quelque chose qui pourrait nous dicter quelque chose, c'est insupportable pour la République.
Puis de l'autorité qui nous dépasse, oui. Et nous dépasse complètement.
Il faut avoir autorité.
Oui.
Soit une autorité indépendante, mais une autorité qui aurait le droit de dire quelque chose.
Aujourd'hui, oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut pas. Il me semble qu'on inverse les choses. Hein. On moralise d'abord, et puis on pense que la crainte va venir. Non, je crois que la crainte d'abord, etc. Alors, conséquences maintenant. Conséquences de la crainte de Dieu. Les bonnes conséquences. Bonnes conséquences de la crainte de Dieu. Alors, dans l'Église déjà. Conséquences de la crainte de Dieu dans l'Église. Dans l'Église, Éphésiens 5, 21, « Soumettez-vous les uns aux autres » dans la crainte de Dieu. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Donc il y a un respect qu'on doit aux uns et aux autres, une intersoumission, un respect mutuel, et ça, on le vit, c'est favorisé par la crainte de Dieu. Si je ne crains pas Dieu, ben, j'aurai tendance à voir mes frères et sœurs, comment dire, à ne pas les voir comme, avec la valeur que Dieu leur donne. Celui qui craint Dieu, et on sent bien dans ces moments où, en particulier comme dans les chants tout à l'heure, on a une vision de Dieu comme ça qui s'élargit beaucoup, on craint Dieu et à ce moment-là, on ne voit plus les gens, en particulier les frères et sœurs, on ne les voit plus de la même façon. Donc favoriser la crainte de Dieu, l'amour fraternel dans l'Église y gagnera, ce qui est quand même important. Elle stimule l'amour fraternel. Ensuite, pour le chrétien, il y a plein d'avantages à craindre Dieu. Alors, je vous donne, c'est pour vous dire qu'il y a des... pour nous donner envie de vivre cela. Plein d'avantages, en particulier aussi pour le chrétien maintenant. On vient de voir un avantage au moins pour l'Église. Maintenant, pour le croyant. Alors, j'ai laissé les références rapidement ici, et puis je donne le contenu. Philippiens 2,12. Travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez votre salut, il est parlé à des frères et sœurs, avec crainte et tremblement. Il n'est pas dit travailler à votre salut, mais c'est travailler votre salut, comme quelqu'un qui travaillerait un jardin qu'il aurait acheté. C'est exactement l'image. C'est exactement ça, c'est comme quelqu'un qui aurait acheté un jardin pour lui faire donner du fruit, il met des arbres fruitiers, il met des fraises, il met des framboises, etc. C'est mon jardin pour qu'il puisse produire du fruit. Et ce fruit est favorisé également par la crainte de Dieu. C'est ce qu'il nous est dit ici. Travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Je suis sauvé, mais c'est quelque chose que le salut que j'ai acquis, c'est quelque chose que je dois travailler pour qu'il puisse porter du fruit. Le salut que j'ai acquis, c'est quelque chose que je dois travailler, je dois enlever les mauvaises herbes, je dois mettre de l'engrais, etc. On pourrait en parler longuement, pour que mon jardin puisse produire du fruit. Et ça, c'est favorisé également, nous dit le texte, par la crainte de Dieu. Si je crains Dieu, je ne me contenterai pas de mon salut. Je ne me contenterai pas de cette idée juste que si je décédais aujourd'hui, j'irais au ciel. C'est vrai, c'est bon, c'est juste. Mais si je crains Dieu, je ne me contenterai pas de cette idée-là. Je vais travailler mon salut, je vais travailler ma vie chrétienne afin qu'elle produise le fruit que Dieu veut qu'elle produise. Donc ça produit aussi, c'est comme un engrais, si vous voulez, la crainte de Dieu, c'est comme de l'engrais dans le jardin de mon salut. Autre avantage, moi, qui m'a beaucoup plu, Proverbe 14, 26, c'est celui qui craint l'Éternel, vous connaissez sûrement. Il possède un appui ferme. Et ses enfants trouvent un refuge auprès de lui. C'est un verset, il y a une dizaine d'années, qui m'a transpercé. Je me suis rendu compte que si je craignais Dieu, j'ai même du mal à en parler encore, ça m'a fait beaucoup parler. Si je crains Dieu, il y a une bénédiction pour mes enfants. Et qu'auprès de moi, auprès de nous, je veux dire, si je parle du couple, les enfants vont trouver un refuge. Et un refuge... Dur comme le rocher. Ça, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Craindre Dieu, ça va bénir nos enfants, parce qu'ils vont trouver vers nous quelque chose qui est une foi, c'est notre foi bien sûr, quelque chose qui est solide, quelque chose qu'on ne peut pas bouger, quelque chose qui est comme un roc. Donc c'est le deuxième avantage. Mes descendants seront bénis. Enfin, Proverbe 1, verset 7, vous connaissez le début de la sagesse, le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est aussi un engrais qui va favoriser la sagesse que je vais pouvoir acquérir progressivement tout au long de ma vie chrétienne. Je vais vite, hein, on pourrait développer tout cela. Ensuite, un avantage également, mais pour les croyants, pour l'évangélisation, pardon. Cette fois pour l'évangélisation. Alors ça, c'est intéressant. Le Saint-Esprit utilise souvent la crainte pour amener des gens à la conversion. Dieu provoque parfois la crainte et ça amène la personne à la conversion. Vous connaissez quelqu'un dans les Actes qui a vécu cela aussi? Qui l'a vécu de cette façon-là? C'est pas le centenier, non? Le gardien de prison, le geôlier, effectivement. cet homme-là, quand il a vu Paul et Silas étaient emprisonnés dans la prison, ils chantaient les louanges de Dieu. À un moment donné, les portes qui s'ouvrent, les liens qui se rompent, le tremblement de terre. Et le geôlier, il a dit qu'il se rend au pied de Paul et il est tout frémissant. C'est la crainte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est frémissant de crainte au pied de Paul. Et elle lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et là, Paul va lui expliquer, puis il va se convertir avec toute sa famille. Et là, qu'est-ce qui favorise donc la conversion de cet homme? Ce qui favorise la conversion de cet homme, très nettement, c'est qu'à un moment donné, il a une... C'est pas une peur, mais c'est une crainte devant un Dieu qui est capable de faire des choses comme ça. Il se doute bien que c'est pas Paul qui a fait ces choses. Il se doute bien que c'est un être transcendant. Et il rentre dans une crainte de Dieu qui va l'amener à la conversion. Vous avez aussi Noé, par exemple. Noé, savez-vous quel était le moteur intérieur qui fait qu'il a construit une arche? Qu'est-ce qu'il a fait d'obéir à Dieu? La foi, allez-vous me dire, mais plus précisément, vous regarderez dans le texte, ce qui a fait obéir Noé pour qu'il puisse fabriquer une arche comme Dieu le lui demandait, c'était une crainte respectueuse, c'est ce dont on vient de parler. Et ça, c'était source de salut pour toute sa famille et pour l'humanité. Alors, pas pour l'humanité qui s'est noyée, mais pour l'humanité qui est descendue ensuite, qui est venue, c'est toute la descendance de Noé. Donc on voit ici qu'il y a une source de salut pour toute la famille de Noé qui avait une crainte respectueuse pour Dieu.
Et à contrario, c'est justement parce qu'ils ne craignaient pas Dieu qu'il l'a détruit.
Les autres, tu veux dire. Les autres, ceux qui sont noyés, ils ne craignaient pas Dieu. Je pense que tu veux dire que c'est écrit aussi comme ça.
C'est dans
une autre sens. Oui, c'est ça. Donc l'intérêt pour l'évangélisation, c'est vrai que parfois on est amené à... Il n'y a pas longtemps, j'ai témoigné à un collègue qui avait une extinction de voix. Alors pour un prof, c'est un petit peu, c'est très, très frustrant. Puis chez lui, ça vient souvent, c'est récurrent. Et ça finissait par durer, puis il avait plus le moral, quoi. Et je lui dis, écoute, je vais prier pour toi, par mail. Hein. Voilà. Quelques heures plus tard, il me rappelle, puis il me dit, ça marche ton truc. Bon, je dirais que... Quel est le sentiment qu'il a pu avoir? C'est pas ça marche ton truc, c'est il rentrait déjà un petit peu dans une certaine crainte de Dieu. Et là, annoncer l'évangile, c'est plus facile. C'est pour ça, on va le voir maintenant, qu'est-ce qui favorise la crainte de Dieu? Et qu'il faut développer si on veut que dans l'Église ça aille mieux, que dans nos vies ça aille mieux, que pour l'évangélisation ça aille mieux, puisqu'on a vu que la crainte de Dieu, ça favorisait l'amour dans l'Église, la crainte de Dieu, ça favorisait la sanctification du chrétien, la crainte de Dieu, ça favorisait également l'évangélisation. On peut se poser la question maintenant, mais qu'est-ce qui favorise cette crainte? J'ai donné trois choses ici. D'abord, les jugements de Dieu. Il faut le dire aussi quand même, parfois la crainte de Dieu, ça vient de jugement de Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui est un Dieu juste. Exemple, je ne les ai pas notés ici. Ananias et Saphira, dans Acte 5, vous connaissez l'histoire. Donc quand ils vont tomber, qu'ils vont mourir, il est écrit que les gens qui étaient là vont avoir une grande crainte de Dieu. C'est la crainte par rapport, non pas à l'amour de Dieu, non pas à sa grandeur, mais à sa justice et à sa sainteté. Une crainte par rapport au fait qu'il est infiniment saint et qu'il est infiniment juste et qu'en conséquence, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, la crainte de Dieu peut être favorisée par un jugement de Dieu, ce que j'appelle, entre guillemets, un jugement de Dieu. Deuxième chose, par les bienfaits de Dieu. Alors, c'est plus sympa, c'est plus facile à vivre, mais... Parfois, pourquoi Dieu fait d'une façon, parfois d'une autre façon, d'autres fois, je ne sais pas très bien, mais la crainte de Dieu sera favorisée par les bienfaits de Dieu, parce qu'il fait de grands pour nous. Les disciples, quand Jésus dit à la mer et au vent de se calmer, puis au vent de s'arrêter, les disciples rentrent dans une grande crainte de Dieu. C'est suite à une bénédiction. Ils ont craint Dieu. Dans le psaume 67, vous trouvez... La terre donne ses produits, Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. On voit des gens qui, devant les produits de la terre, devant les bénédictions de Dieu, bénédictions matérielles, il fait pousser leur... Il envoie la pluie on en manque un peu, mais bon. Il envoie la pluie pour que comment dire, les moissons, etc., puissent se faire. Il y a des gens qui, devant cela, ont la crainte de Dieu. Et moi, j'aime bien quand Dieu me bénit de façon un petit peu forte comme ça, parce que ça me fait rentrer dans la crainte de Dieu. Troisième chose qui nous font rentrer également dans la crainte de Dieu, les miracles. Quand on vit quelque chose de très très fort comme ça, du point de vue du miraculeux de Dieu, du point de vue des miracles de Dieu, on vit quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance de l'amour de Dieu, mais c'est quelque chose qui va nous donner aussi la crainte de Dieu. Parce que si Dieu est capable de guérir un paralytique, je vais avoir tendance à quand même à me dire, ce Dieu-là, je ne peux pas faire n'importe quoi par rapport à lui. Vous comprenez que c'est la même chose. Parfois, on inverse un petit peu, je crois, la démarche. Soit c'est un Dieu dont j'ai peur et à qui je veux plaire parce que j'ai peur que si je ne suis pas comme il voudrait que je sois, il me donne un coup de bâton. Ça, c'est la peur. Mais la crainte par rapport à Dieu, c'est quelque chose qui est tellement différent. Quand je crains Dieu, je lui donne une dimension, une place dans mon cœur, je lui donne une dimension dans mon esprit, dans mes conceptions de qui il est, que ce n'est pas que je vais essayer de lui plaire pour ne pas avoir un coup de bâton. C'est que je me dis, mais un tel Dieu qui est aussi saint, qui est autant plein d'amour, qui est autant juste, qui est autant puissant, je ne peux pas faire comme si je ne le connaissais pas. Je ne peux pas ne rien faire. Je ne peux pas changer, ne pas changer ma vie. Je ne peux pas faire comme s'il n'était pas là. Je ne peux pas faire comme si. Je ne peux pas lui déplaire. Ce n'est pas possible. Un père qui est si bon, un père qui est si grand, j'ai envie de lui plaire. Mais c'est parce que je le crains. C'est parce que je lui ai donné sa vraie dimension, la bonne dimension dans mon cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois que des fois, on inverse les choses. Puis enfin, la dernière chose, l'exemple de Jésus. Jésus craignait Dieu. Ah, Jésus, oui, qui était Dieu lui-même, je ne fais pas de fausse théologie, hein, mais Jésus, qui était la deuxième personne de la Trinité, quand il était sur cette terre, craignait Dieu, c'est écrit. Il est écrit même, il respirait la crainte de l'Éternel. Il respirait la crainte de l'Éternel, ça veut dire que ça émanait lui, il était plein de cette crainte, c'est incroyable. Alors vous comprenez bien que ce n'est pas parce qu'il avait peur du Père Céleste, hein. C'était, c'est parce qu'il était parfaitement soumis au Père et qu'il avait une vision de Dieu le Père qui était à 100% complètement juste lui. Alors vous trouvez ça dans Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe, où il est parlé en fait du Messie. Chouraki frémir. Il frémissait, il respirera la crainte. Il faudrait traduire il respirera la crainte par il respirera en frémissant. Quelque chose comme ça, je n'ai pas réfléchi, la crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, verset 2, pour la référence. Donc il a parlé du Messie, mais le Messie c'est Jésus. Donc si Jésus respirait la crainte de l'Éternel, à plus forte raison nous sommes appelés à suivre son exemple et à faire comme lui. Même lui ne disait pas, le Père, c'est le Père, il est grand, etc. Puis moi je suis la deuxième personne de la Trinité quand même. Non, il était pleinement, quand il était sur terre en tout cas, pleinement, complètement soumis au Père Céleste, dont il avait une vision qui était absolument extraordinaire. Quand il levait les yeux au ciel et qu'il priait son Père, en même temps, il était parfaitement conscient de tout l'amour du Père, de toute la grandeur du Père, de la puissance du Père, de sa justice et de sa sainteté. Et il en était conscient à 100%. Il avait une vision du Père qui était à 100% correcte. Il nous invite aujourd'hui à essayer d'aller un petit peu plus loin. Les chants qu'on a eu tout à l'heure, les remarques qui ont été faites, je pense qu'elles allaient aussi dans ce sens-là. Prions, si vous voulez. Seigneur, nous voulons venir frémissant, tremblant devant toi. Seigneur, cette crainte, nous savons que nous ne pouvons pas la provoquer, l'inventer, l'imaginer. Mais toi, tu peux la susciter en nous. Et Seigneur, nous prenons le risque de te demander de provoquer cette crainte parmi nous, dans cette église locale, dans ce réseau d'églises, mais aussi dans nos vies et aussi autour de nous. Seigneur, nous prenons ce risque parce qu'il y a, il y aura des, si nous avons cette crainte, Seigneur, il y aura des conséquences, des belles conséquences, des conséquences agréables, des conséquences difficiles. Mais Seigneur, nous te le demandons parce que nous savons que c'est juste. Seigneur, qui ne te craindrait ? Seigneur, qui ne te craindrait ? Il faudrait être fou, Seigneur. Il faudrait que nous soyons fous, Seigneur.